Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinécure. Tous les premiers mercredis du mois, je vous propose 4 films sans limite de genre ni d'époque, à la seule condition qu'ils soient visibles en VOD ou en streaming. Vous le savez, cette saison j'ai décidé de pimenter un peu plus les choses en cherchant à relier les 4 films que je vous propose par un fil rouge. Ce mois-ci, on va revenir sur les fêtes de fin d'année, non pas en parlant de films de Noël, mais en s'intéressant à la famille. On va parler relations, bien sûr, mais on va surtout revenir sur ce que la famille est, un groupe de gens qui ne se sont pas choisis et qui doivent composer ensemble, encore plus en cette période terminée de fêtes de fin d'année. La famille est unique en ce que c'est un des seuls groupes avec lequel on doit apprendre à vivre dès le plus jeune âge, sans l'avoir jamais vraiment décidé, et c'est ce qui fait sa particularité. Elle est dans ce sens un peu comme l'entreprise, sauf que le groupe d'employés ou de salariés, d'indépendants ou de clients avec lesquels nous interagissons est interchangeable et va évoluer au fil du temps. Quand on change d'entreprise, on ne continue pas de voir tous les salariés avec lesquels on a collaboré une fois par an dans une fête qui leur serait quasiment entièrement dédiée, alors qu'on se retrouve souvent pour une occasion annuelle, comme peut l'être Noël par exemple. C'est aussi un groupe hyper hétérogène dans lequel, n'en déplaise au moins tolérant, tous les genres, toutes les sexualités et tous les âges sont représentés. Si je prends par exemple mon Noël de cette année, j'ai vu 4 générations réunies autour de la même table, de mon fils jusqu'à son arrière-grand-mère, en passant par ma femme, sa mère et mes belles-sœurs. En tant que tel, ce n'est donc pas surprenant que le cinéma ait abondamment parlé de famille. C'est un creuset fantastique pour observer les comportements humains. On pense bien entendu à la comédie culte « La vie est un long fleuve tranquille » et à son étude du milieu social et de l'impact qu'il a sur les relations. Beaucoup moins fun, mais tout aussi intéressant, on a le formidable film de Luchino Visconti, « Rocco et ses frères », qui n'est pas non plus dans ma sélection, mais dont je vous parlerai peut-être un jour. Le film Pixar « Coco » est une vraie réussite et présente aussi une famille qui cache un traumatisme qui va être révélé puis soigné par la communauté. Plus récemment au cinéma, on a pu voir Everything Everywhere All at Once qui parle de la famille d'une manière complètement inattendue et pourtant très juste. J'aurais aussi pu vous parler de la famille que l'on se choisit, comme Michel Hazanavicius le fait à mon sens avec brio dans Coupé, son remake sorti l'année dernière, mais je voulais m'intéresser de plus près à cette communauté de personnes souvent hétéroclites et aux dynamiques qui s'instaurent entre elles. C'est dans cet objectif qu'on va commencer notre exploration, en faisant un lien avec l'épisode précédent qui parlait de pouvoir, et observer comment cette quête de pouvoir déchire une famille, déjà plutôt dysfonctionnelle, de l'intérieur dans la France du XIIe siècle. L'hypocrisie générale qui habite ce premier film débordera sur le second, qui nous emmènera en Chine vers un choc des cultures compliqué à gérer pour la protagoniste. Après quoi, on continuera d'observer les dynamiques relationnelles entre parents et enfants, et l'inversement du rapport qui s'opère quand les parents s'approchent de la fin de leur vie. Pour terminer par une interrogation philosophique profonde de ces rapports justement, et de ce qui constitue l'amour filial. Prenez place à ma table, servez-vous en légumes et ne faites pas trop attention à ce que raconte papy, le repas va être un peu plus long que prévu. The Lion in Winter, titre français Le Lion en hiver, d'Anthony Harvey, durée 2h14. Noël 1183, le roi Henri II d'Angleterre décide de réunir la famille pour annoncer lequel de ses 3 fils reprendra le royaume à sa mort. Il envoie donc chercher ses fils Richard et Geoffrey et sa femme Aliénor pour les faire venir à Chinon, où il se trouve avec son fils Jean et sa maîtresse Alix. Philippe, le jeune roi de France, doit venir aussi. Dès leur arrivée, les mensonges et les manipulations commencent. Alors, attention, alerte, film exigeant. Je vais être complètement honnête avec vous, si je n'avais pas eu la chance de voir ce film en salle, je n'aurais probablement jamais été au bout. C'est complexe, c'est souvent bavard, ça ressemble beaucoup à du théâtre. Sur le papier, rien ne me prédestinait à aimer le film, et c'est même plutôt l'inverse. Je n'aurais jamais dû aimer ce film. Et pourtant, est-ce que c'est le cast monstrueux ? Peter O'Toole y côtoie Anthony Hopkins et Timothy Dalton, tous deux très jeunes, mais surtout une Katharine Hepburn absolument stellaire. Le film lui vaudra d'ailleurs son 3e Oscar qu'elle partagera cette année-là avec Barbara Streisand. Est-ce que c'est parce que le film montre un personnage historique qui a toujours eu une valeur particulière pour moi ? Je veux parler bien sûr d'Aliénor d'Aquitaine, interprétée par ladite Katharine Hepburn. Ou bien, est-ce que c'est parce que c'est le film qui arrive à comprendre et contenir ce qu'une famille hautement dysfonctionnelle et toxique peut avoir d'extrêmement malfaisant ? Souvent, les films qui parlent de famille choisissent de montrer comment les membres de cette famille peuvent se faire du mal à trop s'aimer. C'est même le point de départ de quelques films d'animation comme Nemo ou plus récemment Luca. Les parents ont peur du danger et n'acceptent pas que leurs enfants s'émancipent. Mais dans ce film, c'est l'inverse qui est mis en place. Chaque membre de la famille tente tant bien que mal de nuire à l'autre, jusqu'à ce qu'un amour irrationnel, incompréhensible même, les empêche complètement d'y parvenir. Le pinacle de cette façon absolument abominable d'envisager une relation étant celle unissant le roi Henri II et sa femme Aliénor. Chacun pousse ses pions pour servir ses intérêts propres. Aliénor cherche à s'émanciper d'un mari qui l'a littéralement emprisonné, et Henri II voudrait entrer dans l'histoire en laissant derrière lui un héritage qu'il voudrait trop lourd à porter pour sa descendance, s'assurant ainsi l'éternité. Tous deux des monstres qui ont engendré une descendance mesquine et incapable de nouer des relations qui ne soient pas basées sur autre chose que le calcul et la lâcheté.
Who could I have chosen to love, to gall you more?
There's no one.
Time hasn't done a thing but wrinkle you.
Hasn't even done that. I've borne 6 girls, 5 boys, and 31 connubial years of you. How am I possible?
There are moments when I miss you.
Many?
Do you doubt?
That's my woolly sheepdog. So, wee Johnny gets the crown.
I've heard it rumored, but I don't believe it.
Losing Alice will be hard, for you do love her.
It's an old man's last attachment, nothing more. How hard do you find living in your castle?
It was difficult in the beginning, but that's past. I find I've seen the world enough.
I'll never let you loose. You led too many civil wars against me.
And I damn near won the last one. Still, as long as I get trotted out for Christmas courts and state occasions now and then. For I do like to see you.
À ce titre, le scénario écrit par James Goldman, lui aussi récipiendaire de l'Oscar cette année-là, est un bijou de répliques tranchantes et de personnages malsains. Toute son histoire prend place pendant la période de Noël et laisse entrevoir au mieux une vision cauchemardesque de la famille, au pire une enfance abominable au sein d'une famille toxique. Le tour de force de son scénario réside tout de même dans la faculté qu'il a de dépeindre un groupe de gens manifestement mauvais, mais de réussir malgré tout à nous faire comprendre leur motivation, leur manipulation et au final l'amour qu'ils se portent et les regrets qu'ils nourrissent de ne pas réussir à mieux transmettre cet amour. Pris dans les rouages d'un pouvoir qui se doit d'être violent et de diviser la population, particulièrement à cette époque où on assassine sans vergogne, les personnages sont aveuglés et incapables de voir, sauf sous la forme de rares éclairs de lucidité, que l'amour devrait être ce qui les réunit. Ils sont atrophiés, incapables d'aimer correctement et incapables de se faire aimer non plus, tout méfiant qu'ils sont. Alors oui, il y a quelque chose qui relève de la pièce de théâtre, ne serait-ce que par l'unité de lieu et de temps qui caractérise cette histoire, mais quand c'est interprété par des mastodontes comme ceux à l'écran, ça n'est pas un empêchement, en tout cas en ce qui me concerne. À cette très belle brochette d'artistes, il ne faudrait pas oublier d'associer John Barry, qui a lui aussi reçu l'Oscar de la plus belle musique, ce qui porte le total de statuettes glanées par The Lion in Winter, le lion en hiver en français, à 3. Vous savez que je ne base pas particulièrement la réussite d'un long métrage sur les Oscars qu'il obtient, mais je dois dire que ces 3-là, pour un film aussi exigeant, sont un indicateur de sa qualité. Si vous aimez les coups de couteau dans le dos, les trahisons et les intrigues politiques, alors The Lion in Winter, titre français Le Lion en hiver, vous plaira. Il est disponible sur Univers Ciné pour la somme de 2,99€. Et en 1969, on pouvait voir dans les cinémas français Hibernatus d'Edouard Molinaro, Bullet de Pierre Yates et La bataille d'Angleterre de Guy Hamilton. The Farewell de Lulu Wang durait 1h40. Billy est une jeune artiste chinoise expatriée aux États-Unis depuis ses 6 ans. Très proche de sa grand-mère qui vit toujours en Chine, elle apprend que celle-ci a un cancer avancé des poumons et qu'il lui reste peu de temps à vivre. La famille organise alors le mariage du cousin de Billy afin de se réunir autour de la grand-mère mourante à laquelle il est décidé de ne rien annoncer. Alors que Billy n'est pas convié, de peur qu'elle révèle malgré elle sa maladie à sa grand-mère, celle-ci décide de se rendre malgré tout en Chine. Ça fait déjà quelques temps que A24 se démarque dans le paysage américain de la production cinématographique en se positionnant toujours sur des films que l'on pourrait appeler marginaux. C'était en tout cas beaucoup le cas en 2013 quand la compagnie a commencé, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, non pas que leur style ait été dilué, mais je crois plutôt qu'ils ont su imposer leur style petit à petit et faire en sorte d'être aujourd'hui devenus ce que le public recherche. The Farewell n'est pas une exception à ce style particulier qui va souvent parler à la plus jeune génération en mettant en scène des problématiques beaucoup plus actuelles qu'un studio hollywoodien classique. Le film très personnel de Lulu Wang, et qui se base sur une expérience personnelle de la réalisatrice, exploite deux thèmes en parallèle. Il parle d'une part de la famille, cette communauté si particulière dont je parlais en introduction du podcast, et d'autre part, il parle aussi de la vie d'expatrié et du rapport que l'on a à nos proches, à nos racines, à notre pays d'origine quand on vit loin de ce pays.
What about the wedding?
Wedding is an excuse so everyone can go see her. We leave first thing in the morning.
I need to go.
Billy.
I need to go.
Everyone thinks better if you don't. Look at you. You can't hide your emotions. If you go, Nana will find out right away.
Les deux thèmes vont ainsi se répondre au fil de la narration et se mettre à tour de rôle en évidence, en s'entrelaçant intimement. Et ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est précisément ça, cet entrelac de sentiments contradictoires qui va faire vivre à Billy, interprété avec talent par la rappeuse Awkwafina, un clash des cultures violent et une prise de conscience qu'il existe en elle une brisure de par son expatriation avec laquelle elle doit apprendre à composer. Je réalise que pour le moment, ce que je vous raconte ne vous donnera peut-être pas hyper envie de voir le film, mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore raconté, qui est la facilité déconcertante avec laquelle Lulu Wang aborde tous ces thèmes compliqués de l'identité, des relations intergénérationnelles, des cultures radicalement différentes. Il y a, dans le film, une poésie de tous les instants, une sorte de pudeur tranquille qui permet à la réalisatrice de sauter d'un thème à l'autre en semblant les aborder simplement avec facilité. Pourtant, Billy, qui est l'artiste de la famille, et qui est donc à l'opposé de ce que ses parents sont partis chercher aux États-Unis lorsqu'ils ont fait le choix de déménager là-bas, souhaite pour elle, vit vraiment des situations douloureuses, complexes, et est soumise à bon nombre d'injonctions contradictoires. Cela n'empêche jamais le film d'être surprenamment léger, et même souvent très drôle. Bien aidé par une photographie sobre et très douce, assurée par Anna Franquesa Solano, une autre femme qu'il est incompréhensible de ne pas plus retrouver au cinéma, le film m'a laissé une sensation très douce amère que je ne suis pas prêt d'oublier. Enfin, et il faut le saluer, A24 a pris un risque avec une industrie de plus en plus frileuse en acceptant de raconter cette histoire particulière avec un cast presque exclusivement asiatique et des personnages qui parlent une autre langue que l'américain plus de 80% du temps. Une condition sine qua non qui nous aide, nous les spectateurs, à être à chaque instant tiraillés entre deux mondes, l'Occident et l'Orient, avec ce que cela implique socialement et philosophiquement. Si vous aimez les clashs de culture, les embrouilles familiales et les secrets, alors The Farewell est fait pour vous. Il est disponible sur Canal+, en streaming. En 2019, en France, on pouvait aller voir au cinéma Les Misérables de Ladj Ly, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et Toy Story 4 de Josh Cooley. Un dimanche à la campagne de Bertrand Tavernier, durée 1h30. Gonzague, un bourgeois un peu empâté et satisfait, vient passer la journée chez son père, monsieur l'admiral, un peintre modeste et plutôt bonne patte, avec femme et enfant. Alors que la journée se déroule, les échanges sont pleins de sous-entendus et de ressentis divers et variés, et l'on sent que cette petite routine est confortable pour tout le monde, jusqu'à une arrivée imprévue qui chamboule un peu tout. Lors de la première saison de Sinécure, je vous avais parlé de Quai d'Orsay, aussi réalisé par Bertrand Tavernier, un réalisateur que j'avais alors comparé à Scorsese, débordant d'une énergie qui transparaissait dans la réalisation et surtout dans le découpage extrêmement tonique. Je ne me dédie pas, mais le film dont je vais vous parler aujourd'hui est aux antipodes de Quai d'Orsay. Une preuve de plus du talent de Tavernier qui décidément savait tout faire. Bien aidé par ses acteurs, le trio Louis Ducreux, Michel Aumont et Sabine Azéma est savoureux, le réalisateur construit un film à l'image de l'histoire qu'il raconte. Confortable, paisible et d'aucuns diraient un peu plan-plan. Ce serait à mon avis commettre une erreur que de ne pas s'apercevoir du propos du film qui est justement la famille. La famille pas telle qu'on l'entend mais plutôt telle qu'on la vit. Sans jamais juger ces personnages, ou plutôt sans malveillance, il nous montre à voir des gens qui ont fait des choix et qui composent avec ceci en tentant tant bien que mal de ne pas s'en offusquer. Il y a le père qui fait ce que les pères font le mieux, en désespérant parfois que ses enfants n'aient pas plus d'audace, jusqu'à ce que l'audace leur soit désespérante. Puis il y a le fils qui tente de se construire une identité sans marcher dans les pas de son père, mais sans jamais vraiment s'en éloigner. Et enfin, il y a la fille qui dérange par sa façon d'être, qui le sait, qui en joue, mais qui en souffre. Avec une grande subtilité et une grande sensibilité, Tavernier montre ici de façon brillante la prison si douce que peut être la famille. Je vous parlais pour The Lion in Winter d'une dynamique inversée où l'amour venait corrompre les manipulations des uns et des autres, presque malgré eux. Cette dynamique est ici remise en ordre de marche et Tavernier semble vouloir nous en montrer les rouages sans pour autant nous en révéler les secrets.
Tout à l'heure, hein, Quand tu es venu me réveiller dans le jardin, je rêvais. Si tu vas rire, je rêvais à Moïse. Je le voyais au moment où il allait mourir. Il venait d'apercevoir la terre promise. Eh bien, je savais qu'il allait partir sans regret. Parce qu'il avait vu, compris, aimé ce qu'il aimait.
Tu me comprends, Ingrid? On peut mourir pour moins cher.
Ce qu'on retrouve, au fond, c'est ce qui anime beaucoup de familles. L'amour inexplicable que l'on porte à des gens que par ailleurs on ne comprend pas vraiment. Un attachement qui est peut-être dû au temps que l'on passe ensemble à s'observer sans véritablement s'entendre et à cette sacro-sainte structure familiale dont décidément on ne parvient pas à se défaire. Et de temps, il en est question. On pourrait même dire qu'il n'est question que de ça. Car au fond, y a-t-il une autre structure où le temps dicte plus sa loi qu'au sein de la famille? Rythmé par les naissances et les disparitions, les familles s'organisent autour de grands rendez-vous comme autant de rites de passage. Je parle de mort parce que l'ombre de celle-ci plane sur le film, adapté par Tavernier à quatre mains avec sa femme, du roman de Pierre Bost, justement intitulé « Monsieur l'Admiral va bientôt mourir ». Combien de temps reste-t-il à un parent pour transmettre à son enfant les leçons dont il va avoir besoin pour vivre sa vie? Et combien de temps reste-t-il aux enfants pour dire à leurs parents ce qu'ils ont sur le cœur? La volonté de partir en paix ou celle d'être conforme aux attentes de l'autre sont toutes deux intimement liées au temps et à celui qu'il nous reste à vivre ensemble. Cette invariable apparaît dans le film de Bertrand Tavernier comme particulièrement injuste et implacable une fois placée aux côtés de l'insaisissable nature de nos vies. Nous ne pouvons au final pas éduquer au sens de tutorer nos enfants. Nous ne pouvons que les amener à la vie et leur souhaiter le meilleur. Bien sûr, nous leur transmettons des valeurs qui nous semblent importantes, mais celles-ci seront diluées par l'expérience qu'ils vont se faire de la vie, de l'époque dans laquelle ils vont vivre ces expériences et de la vie qu'ils vont s'en faire par eux-mêmes. Et pourtant, tout conscients que nous sommes de l'inutilité de cette démarche, nous ne pouvons pas nous empêcher, en tant que parents, de mettre en garde, d'orienter, de conseiller. Et de même, nous ne pouvons pas ignorer complètement nos parents. Même avec les intentions les plus rebelles, leurs mots trouveront toujours une place dans notre esprit et dans notre cœur, même si une fois, 10 fois, 100 fois, nous aurons pu constater l'invalidité de certains de ces conseils. Je crois, et je pense que Tavernier aussi le croyait, qu'il se pourrait bien que le concept même de famille réside dans l'injonction paradoxale de laisser l'autre se faire sa propre opinion et de le protéger à tout prix. Si vous aimez les films qui ont l'air sans avoir l'air, les dialogues tirés au cordeau et les messages subtils et élégants, alors Un dimanche à la campagne est fait pour vous. Il est disponible sur Canal+, en streaming. En France, en 1984, on pouvait voir dans les salles obscures Les Ripoux de Claude Zidi, Amadeus de Milos Forman et Paris, Texas de Wim Wenders. AI, Artificial Intelligence, titre français AI, Intelligence Artificielle, de Steven Spielberg, durée 2h26. Dans un futur éloigné, le changement climatique est tel que l'humanité a besoin des robots pour survivre. David, le premier enfant cyborg jamais créé et programmé pour aimer, est adopté par une famille dévastée par la maladie de leur unique enfant. Lorsque ce dernier peut être guéri, David sent que son utilité est en danger et souhaite devenir un vrai petit garçon pour obtenir l'amour de sa mère. Après presque 2 ans de podcast, j'ai enfin l'occasion de vous parler de Steven Spielberg. Un vrai casse-tête si on prend 2 secondes pour contempler la filmographie du maître américain. Comment trouver un film inconnu dans une liste de films devenus iconiques? E.T., Indiana Jones, Jurassic Park, je ne me voyais vraiment pas vous conseiller l'un de ces films. Il faut dire qu'à chaque fois que je fais mes listes, il y a dans ma tête une petite voix censée vous incarner vous, les auditeuristes de Cinécure, et qui me dit bien souvent « Ouais, on t'a pas attendu pour découvrir Les Dents de la Mer ». Or, l'ambition de Cinécure n'est pas d'être pédant ou élitiste, mais de vous emmener sur des chemins de traverse en vous parlant des œuvres moins connues des cinéastes que vous connaissez peut-être déjà. Pour Spielberg, je me doutais bien que ce ne serait pas simple, alors qu'il a réalisé beaucoup des films que j'aime. Je pense bien entendu à ceux que tout le monde connaît, mais aussi à Munich, Bridge of Spies, et donc à AI, Artificial Intelligence, titre français AI, Intelligence Artificielle. Je ne vais pas passer des heures à vous entretenir sur les origines du projet. Développé par Stanley Kubrick en très grande partie, ce film avait été proposé à Spielberg à plusieurs reprises, lequel l'avait systématiquement refusé. Ce n'est qu'avec la disparition du réalisateur de The Shining que Spielberg s'est résolu à s'y atteler. C'est à peu près tout ce que je savais de ce long métrage au moment où je l'ai lancé. Ça, et ce que le podcast Capture Mag en avait dit dans son épisode Fleuve dédié à la carrière du réalisateur américain et qui avait attisé ma curiosité. Grand bien m'en a pris, j'ai découvert ce que je considère être comme l'un de ses meilleurs films.
Until you were born, robots didn't dream, robots didn't desire unless we told them what to want. David, do you have any idea what a success story you've become? You found a fairy tale, and inspired by love, fueled by desire, you set out on a journey to make her real, and most remarkable of all, no one taught you how, we actually lost you for a while. But when you were found again, we didn't make our presence known because our test was a simple one. Where would your self-motivated reasoning take you to the logical conclusion? The blue fairy is part of the great human flaw to wish for things that don't exist, or to the greatest single human gift, the ability to chase down our dreams. And that is something no machine has ever done until you.
Formellement déjà, la photo, assurée par Janusz Kaminski, qui travaillera plus tard sur Munich, est tout simplement à tomber par terre, et les décors futuristes, mais pas trop, de Rick Carter résistent bien à l'épreuve du temps, ce qui, pour un film de science-fiction, peut toujours être un peu problématique à mesure que le film vieillit. Il faut dire que le bonhomme a un peu de métier puisqu'il a travaillé sur Star Wars, Avatar, Retour vers le futur ou encore quasiment tous les films de Spielberg, dont Jurassic Park. À la musique, bien entendu, on retrouve John Williams, un collaborateur de longue date qui signe ici l'une de ses plus belles partitions. Côté interprétation, je ne peux pas ne pas prendre quelques secondes pour souligner la prestation hors norme de Hayley Joel Osment, qui signe ici une interprétation impeccable, profondément émouvante et même dérangeante. Mais qu'est-ce qui a pris l'Académie cette année-là de ne même pas le nommer pour l'Oscar du meilleur acteur ? Bon, il avait en face de lui Denzel Washington dans Training Day, certes, mais tout de même. Pour ce qui est de la réalisation, c'est sans surprise fantastique aussi, puisque c'est mis en scène par Steven Spielberg. Qu'est-ce que je pourrais vous dire qui serait intéressant et nouveau à son propos ? Parlons plutôt du fond. À travers cette histoire qui se pense comme un conte, j'en veux pour preuve les nombreuses références à Pinocchio disséminées tout au long du film, et la structure narrative qui semble être calquée sur celle mise en place par Carlo Collodi au 19e siècle, c'est notre humanité que Spielberg va interroger. Mais là où le script, écrit en grande partie par Ian Watson, est très fort, c'est qu'il ne va pas se limiter à se questionner sur l'amour que va vivre David, le petit garçon cyborg programmé pour aimer. Il va aussi se pencher sur la capacité d'un humain à aimer en retour un robot dont la seule fonction est l'amour. Le film apporte bien sûr une réponse, sous la forme d'une exploration par David du monde que les humains ont forgé. Il va y croiser d'autres robots, d'autres humains, et converser avec ses personnages toujours sur un double plan. Il y a l'histoire, la trajectoire du héros bien sûr, mais il y a aussi un dialogue que Spielberg entretient avec nous à chaque instant à un niveau philosophique qui ne méprise pas pour autant la charge émotionnelle puissante du film que le réalisateur sait manier comme personne. C'est plus que l'exploration d'un monde futuriste, c'est une observation de nos mœurs et bien sûr de notre mortalité, de l'héritage que nous allons laisser aux espèces futures qui peupleront la Terre quand nous ne serons plus là, et de la compréhension du monde que nous avons eu pendant que nous habitions cette planète. Car il semble bien que notre existence soit une course contre la montre, contre une extinction inéluctable, et que la seule chose qui soit censée soit l'amour que nous nous portons les uns aux autres, et particulièrement celui que nous partageons avec les membres de notre groupe d'individus le plus proche, au moins génétiquement, notre famille. Si vous aimez les contes philosophiques qui vous restent longtemps en tête, les doubles plans de lecture et la science-fiction, alors AI, Artificial Intelligence, titre français AI, Intelligence Artificielle, vous ravira. Le film est disponible sur Prime Video en streaming. Et en 2001, sortait sur les écrans français Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, Le Pacte des Loups de Christophe Gans et Trafic de Steven Soderbergh. Allez, on se détend, on ouvre le premier bouton du pantalon, on se serre en digestif et on se laisse somnoler paisiblement, cet épisode est terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le préparer. Petite pensée pour tous ceux d'entre vous qui ont passé des fêtes compliquées et qui n'ont pas la chance d'avoir une famille bienveillante, c'est terminé, rendez-vous l'année prochaine. Pour tous les autres, prenez bien soin de vous et des vôtres. Si vous souhaitez prendre aussi soin de Sinécure et que vous avez un peu de temps pour le faire, vous pouvez vous abonner déjà et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix. C'est très important pour le référencement et ça aide à faire connaître le podcast. Je vous encourage aussi à en parler à un maximum de gens autour de vous. On est nombreux à aimer le cinéma. Sinécure est un podcast créé et produit par moi-même, Charles-Edouard Wasselin, et distribué par Vaisseau Hypersensas, dont je remercie les membres pour leur patience et leur bienveillance. Je vous rappelle que sur le Discord du Vaisseau Hypersensas, vous trouverez un channel Sinécure, où nous parlons de cinéma en général et parfois de films recommandés ici en particulier. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est très gentils et toujours contents de voir de nouvelles têtes. La liste des films recommandés dans tous les épisodes de Sinécure est toujours dispo sur Letterboxd, vous la trouverez dans mon profil et en description de cet épisode. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Sinécure. D'ici là, prenez bien soin de vous, regardez plein de films. Ciao !